C'est un nom que certains refusent de prononcer, celui de l'assassin de John Lennon. Un jeune homme de 25 ans qui lui a tiré dessus au pied du Dakota Building à New York le 8 décembre 1980. Refusait de dire son nom parce qu'en commettant son acte, ce déséquilibré voulait justement accéder à la postérité. Ce matin, Pop & Co et Pop & Lennon pour le récit forcément non exhaustif d'un enfant du siècle. Un récit qui commence après la séparation des Beatles, quand Lennon se veut simplement John, ou plutôt John Ono, en couple avec Yoko. C'est l'histoire d'une petite frappe devenue pacifiste, d'un militant aux causes multiples dont celle de la paix, dont certaines parfois datées, mais avec une communication puissante. Exposer son intimité et surtout écrire des chansons devenues des hymnes dans le monde entier. C'est l'histoire d'un misogyne devenu féministe, d'un Anglais qui brocarde l'administration des États-Unis tout en voulant devenir américain. C'est l'histoire d'une superstar surveillée par le FBI qui va devenir homme au foyer. À New York, on restera, mais dans d'autres quartiers, pour la réécoute du labo musical de David Walters, soit une entrée dans les coulisses d'un de ses morceaux en créole. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
À 11h et des poussières, on va refaire la scène qui se joue à la radio à chaque heure pétante. Il est 13h sur France Inter. Le journal vous est présenté par Alain Bédoué.
C'est un déséquilibré, admirateur de toujours, un certain Mark David Chapman, 25 ans, originaire d'Hawaï, qui a tué John Lennon de plusieurs balles de revolver 9 mm, presque tout un chargeur. Le meurtrier était un chasseur d'autographes qui harcelait Lennon depuis plusieurs jours pour avoir une signature. New York, Jacques Tizio.
Alors que John Lennon rentrait avec Yoko Ono d'une séance d'enregistrement vers 23h locale, Chapman l'attendait. Dès que le chanteur-compositeur est sorti de sa limousine, il s'est approché par derrière, demandant de façon interrogative si c'était bien John Lennon et déchargeant alors rapidement son arme presque à bout portant. Les témoins ont dit que l'assassin avait le sourire aux lèvres, qu'il semblait heureux et fier ensuite en répétant « J'ai tué John Lennon, j'ai tué John Lennon ».
Trois semaines plus tôt, John Lennon sortait de 5 ans de silence avec un nouvel album. « Starting Over ». Repartir à zéro, c'est le morceau qui ouvre le disque et dans l'une des prises, Lennon murmure
« This one's for Gene and Eddie and Elvis. And Buddy. »
Celle-là est pour Gene Vincent, Eddie Cochran, Elvis Presley et Buddy Holly. Quatre pionniers du rock qui ont fait le musicien et l'homme qu'il est. Lennon veut s'adresser aux gens de sa génération. « Starting over », c'est une façon de dire... Nous avons été jeunes dans les années 60. La décennie 80 est un nouveau départ.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Entrée chez Jacques Volcouve, collectionneur et historien des Beatles.
Oui, c'est là, sur la droite.
Sur la droite.
Sur la droite, et au fond de la pièce, un mur de vinyle. Il me dit « C'est les Beatles ensemble et en solo dans tous les pays. » Quand John Lennon a été assassiné le 8 décembre 1980, Jacques Volcouve avait 24 ans.
Ça a été un impact énorme. Et ça arrive quelques semaines après le retour de Lennon à une carrière musicale, où il annonçait même que l'année d'après, il allait faire une tournée mondiale. Son album a été accueilli pas avec un grand enthousiasme d'ailleurs. On s'attendait à mieux en fait. Donc c'était un petit peu une déception et il montait doucement dans les charts. C'est évident que sa mort a totalement changé la donne et son album Double Fantasy a atteint le numéro 1 du monde entier. Maintenant, l'impact de la mort de Lennon, au-delà de l'émotion gigantesque qu'elle a déclenchée dans le monde entier, c'était définitivement la fin des Beatles. Car à partir...
Ça, on le savait avant déjà.
Ben non, parce qu'à partir de 1970, à chaque fois qu'on leur tendait le micro, on leur disait « Alors, est-ce que vous allez vous reformer ?» Et il y a eu des rumeurs assez importantes tout au long de cette décennie. Et là, c'était vraiment totalement fini. Mais ça a continué. On a posé la question si Paul, George et Ringo allaient se réunir. Et George avait fait cette réponse « Tant que John Lennon sera mort, nous ne pourrons pas reformer les Beatles. »
Vu d'ici, on ne mesure plus assez à quel point beaucoup ont rêvé que les Beatles se rabibochent. Beaucoup ont été comme des gosses de parents divorcés qui ne veulent pas renoncer à l'idée de retrouvailles. Dans le magazine À suivre de janvier 81, le journaliste Alain Dister écrit « La mort de Lennon, c'est comme un grand bout de nous-mêmes qui fout le camp, un grand lambeau d'adolescence attardé dans les 60s lointaines et encore, s'il n'était question que de nostalgie. » Et Alain Dister poursuit, c'est plus loin, au fond de notre mémoire collective, le rêve brisé de plonger encore dans le sous-marin jaune, tout ça foutu, broyé, pulvérisé. Et pourtant, la fin de ce rêve, Lennon n'a cessé de l'affirmer. Décembre 71, Lennon accorde une interview à Jean-François Vallée pour le magazine Pop 2.
Oui, Beatles, c'était quelque chose d'énorme. Il fallait être un Beatle et rien d'autre. Beatle prenait toute votre vie, c'était ça le problème. Je veux dire, ça s'enflait jusqu'à devenir un monstre, Beatle. Au début, c'était pas ça, c'était le bon temps. On jouait dans les boîtes, les salles de bal, on parlait avec les gens, c'était vraiment chouette. Et c'est devenu ce grand truc. Et c'est comme un type qui gagne des millions en Rockefeller ou Getty. Il devient tellement obsédé par l'argent, comment garder les millions, comment en gagner plus, qu'il oublie tout le reste. Et les Beatles, c'était devenu ça. Et les Beatles, c'est seulement une période de ma vie. J'ai encore une longue route à faire. J'ai vécu 20 ans de ma vie avant les Beatles.
And that's what's bad about it. So you couldn't think of anything else. So the Beatles was a period of my life. You know, I've got a long time to go. And I lived 20 years before the Beatles.
Alors les Beatles, c'est pas si important.
The Beatles aren't that important. Les Beatles sont morts.
Qu'est-ce qui a tué les Beatles?
Capitalisme.
Le John Lennon Plastic Hollow Band, premier album solo de Lennon, c'est ce geste-là. Liquider le passé et descendre de l'Olympe. Commencer une nouvelle vie au singulier, ou plutôt à deux. Dans la chanson God, il énumère tout ce en quoi il ne croit pas. Jésus, Hitler, Kennedy, Elvis et les Beatles.
Believe in me. You're going. say.
L'album de John, c'est trois musiciens. C'est lui, Klaus Voormann à la basse, qui a été ce peintre et ami qui a notamment fait la couverture de l'album Revolver, et puis Ringo à la batterie. Donc c'est vraiment la musique dans son état brut, la plus sincère, quoi. Le rêve est fini, je ne crois plus qu'en moi et en Yoko Ono, et c'est la réalité. C'est ce qu'il dit mot pour mot dans God.
And so, dear friends, we'll just have to carry on. The dream is over.
Chers amis, vous n'avez plus qu'à accepter que le rêve soit terminé.
Yoko?
John?
Yoko?
Commence alors l'histoire d'un couple mythique, premier couple mixte ultra célèbre entre un Anglais et une Japonaise.
Yoko. John.
Yoko.
John.
Yoko.
Elle a été vilipendée, on la traitait de sorcière, on disait qu'elle s'était emparée de l'esprit de Lennon, qu'il était son petit toutou. En revanche, il a rencontré en Yoko à la fois sa compagne, et elle l'a accompagné dans une expérience artistique complète qui lui a permis de faire des choses qu'il n'aurait jamais pu envisager de faire avec les Beatles, qui était devenu un carcan.
Et comme quoi, par exemple?
Ces trois albums de musique avant-garde, c'est-à-dire Two Virgins, Life of a Lion, c'est The Wedding Album. C'est de l'art conceptuel, c'est pas nouveau d'ailleurs, ça avait été fait avant, mais avec Lennon, ça prend une autre caisse de résonance. Maintenant, ces albums-là, on les écoute une fois par hasard, il est difficile de l'écouter une deuxième fois, à moins qu'on y travaille pour faire une émission de radio, c'est compliqué.
John?
Yeah, okay.
The Ballad of John and Yoko, single sorti en 69.
Allô?
Au bout du fil, il y a David Foenkinos, écrivain.
Je défais le fil et j'arrive. Hop.
Ça roule.
Il y a 3 ans, David Foenkinos a publié un roman intitulé Lennon. Il y fait parler John L. à la première personne à travers 18 séances chez son psy.
Alors c'est une entreprise, c'est vrai, très particulière d'écrire un livre sur une personne que tout le monde connaît déjà. Un peu plus tard, j'ai écrit un livre sur Charlotte Salomon, une peintre totalement oubliée, et c'est vrai que c'était plus simple d'un point de vue romanesque, hein, si j'ose dire. Là, en plus, les Beatles, c'est vraiment un monde, une secte. J'avais tous les psychopathes fans des Beatles qui pouvaient me tomber dessus à la moindre virgule ratée dans l'expression de la vie de John Lennon. Et il faut dire que moi, je suis un grand, grand fan. Je collecte tout depuis une vingtaine d'années au moment où j'écris ce livre. Et ce qui m'excitait d'un point de vue romanesque, c'était évidemment de raconter sa vie à la première personne. C'est pas une biographie musicale. Raconter sa vie comme celle d'un personnage romanesque et utiliser ses chansons. Utiliser ce qu'il exprime lui-même de sa fragilité, de sa souffrance, de sa tentative permanente de trouver l'apaisement. J'avais le sentiment que je pouvais le raconter d'une manière intime et romanesque.
Extrait de Lennon, de David Foenkinos. C'est donc John qui parle. Je crois que Yoko a toujours voulu être une sorte de mythe. Elle a toujours eu conscience, bien plus que moi, de ce qu'on devait être. On était John and Yoko, Et si elle n'était pas reconnue en tant qu'artiste, au moins, elle créait l'œuvre du couple. Il y a chez elle une volonté permanente de nous mettre en scène, y compris quand nous parlons aux médias. Nous sommes un roman.
Elle a un petit côté Sophie Calle, hein. Elle met totalement en œuvre leur histoire d'amour, leur union à deux. Alors c'est un choix qu'ils font tous les deux, puisque Lennon, quand il fait par exemple cette chanson The Ballad of John and Yoko, qui raconte leur mariage, c'est une sorte d'autofiction, et ils se mettent en scène en permanence. Et ils aiment ça, ils aiment finalement construire la mythologie de leur couple. Et c'est vrai que parfois on n'arrive plus très bien à savoir ce qui est vrai, entre ce qu'ils disent d'eux-mêmes et ce qu'ils vivent vraiment. Il y a une tentative permanente de façonner finalement aux yeux du monde cet amour mythique. C'était un amour véritable et que tout aurait plutôt poussé, en tout cas à les porter à vivre dans l'ombre et à se cacher. Et surtout vu l'agressivité, vu la violence que suscitait leur passion, la haine contre Yoko Ono, cette briseuse des Beatles, c'est ce qu'on disait, finalement, on aurait dû les pousser vers l'ombre.
I changed my name to Ono in 68 when we got married.
En 1968, j'ai changé mon nom avec Yoko Ono, puisque nous sommes mariés.
I should change mine, you know.
And je trouvais ça normal de prendre le sien comme elle avait pris le mien.
I've been through, you know, I was brought up a pig. As they call it, a show.
J'ai été longtemps un sacré phallocrate.
And probably it's still in me, cause, you know,
et ça reste d'ailleurs encore un peu en moi, c'est normal, je sais tu.
But I believe in all the women's rights, you know.
Mais je crois vraiment et profondément aux droits de la femme.
As a male.
En fait, je veux dire, j'en ai marre de porter le poids du mal.
I'm sick of being
ça me rend malade, de voir la terre détruite par des hommes stupides, des bombes au nom de Dieu ou de je ne sais quoi. J'en ai marre que Dieu soit un homme. Moi, je veux que les femmes se libèrent, c'est-à-dire qu'elles prennent leurs responsabilités. Il faut plus que ce soit des vaches à lait, des vaches à faire des gosses.
Il a passé sa vie en permanence à chercher l'apaisement, en faisant tout et le contraire de tout. C'est ce qu'il a fait toujours dans sa vie. Avec son second fils, il est fou d'amour, alors qu'avec le premier, il ne le calculait pas du tout. Avec sa première femme, elle était dans l'ombre, Cynthia. Dès qu'il a rencontré Yoko, il n'a plus fait une seule apparition sans elle. C'est quelqu'un qui a prôné le pacifisme à l'état absolu, tout en ayant, dans la première partie de sa vie, été extrêmement violent et bagarreur. John Lennon est quelqu'un qui a deux vies et qui a changé du tout au tout à plein d'égards et sur plein de sujets.
En 1970, la deuxième vie de Lennon est marquée par l'un des hymnes qu'il a écrit et composé. Il chante « Il te shoot avec la religion et le sexe et la télé. Et toi, tu t'imagines tellement malin et hors classe et libre. Mais à ce que je vois, vous n'êtes toujours que des putains de paysans. » Soit un héros de la classe ouvrière. Working class hero.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Au revoir.
France Inter.
Bonne nuit, bonsoir.
Rebecca Manzoni.
And Johnny Hallyday.
Pop & Co.
5 décembre 2020, Pop & Co et Pop & Lennon, mars 1966, il fait une déclaration à un quotidien anglais. En ce moment, les Beatles sont plus populaires que Jésus-Christ. Et c'est Jacques Volcouve, historien des Beatles, qui raconte la suite.
Il y a eu un scandale mondial, mais surtout aux États-Unis, dans la Bible Belt, comme on dit, c'est-à-dire l'endroit où il y avait surtout le Ku Klux Klan. On a fait des autodafés qui rappelaient de mauvais souvenirs.
À la suite de cette déclaration ?
Bien sûr.
Et à la suite de ça, ont reçu des menaces de mort ?
Oui, bien sûr. Et Lennon a eu très très peur. On est en plein dans l'actualité, parce que c'est born Christian again, comme on dit en anglais. C'est-à-dire ces fanatiques de Dieu dont on ne voit pas tellement de différence avec d'autres types de fanatisme religieux aujourd'hui. Et il y a eu un concert au Canada, je pense que c'était à Québec, où à un moment, ils ont cru que c'était un coup de feu, et Ringo s'est caché sous sa cymbale. En fait, c'était juste un pétard. Mais ils étaient sur les dents, quoi. Ils ont vraiment eu peur. Lennon était blême quand il a donné sa conférence de presse, où il expliquait, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que les mômes ont plus envie de mettre un disque sur leur platine que d'aller à l'église pour prier. Et qu'en fait, comme pour moi, c'était plus simple de dire on est plus populaire que Jésus-Christ, mais j'aurais pu dire que l'électrophone est plus populaire que Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'il a dit c'est les Beatles qui sont plus populaires que Jésus-Christ. Ce qui est surtout très intéressant dans cette histoire, c'est que tout d'un coup, Lennon a pris conscience du pouvoir qu'il avait sur les médias. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, de cette aventure qui aurait pu être très grave, il en a fait quelque chose de positif pour lui. Il s'est dit, puisque les médias réagissent tellement rapidement pour moi, eh bien, je vais les utiliser pour faire une campagne pour la paix. Et puis, il y a aussi l'homme ivre de sa propre image. Tout était filmé. Ça a été l'idée des Bedin.
Au printemps 1969, John et Yoko s'installent au Hilton d'Amsterdam, puis à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal. Ils invitent les journalistes dans leur chambre, une nouvelle façon de communiquer qui mêle politique et intimité. Depuis leur chambre à coucher de Montréal, John Lennon enregistre une chanson slogan « Give Peace a Chance ». Parmi les choristes, il y a Timothy Leary, professeur de Harvard, rendu célèbre pour sa croisade en faveur du LSD. Il y a aussi, entre autres, la branche canadienne du Krishna Temple et un rabbin qui passait dans le coin.
Give me a chance.
Et c'était porte ouverte. N'importe qui pouvait venir interviewer Lennon et Yoko Ono. On est compte, aujourd'hui, c'est impossible. Et d'ailleurs, au départ, les journalistes allaient arriver en pensant qu'ils allaient assister à une partie de jambes en l'air de John et Yoko devant les journalistes. Ce qui n'a pas du tout été le cas, bien entendu. Ils n'ont pas cessé de parler de la paix, des moyens d'y arriver.
Ouais, en disant parfois un peu tout et n'importe quoi aussi.
Absolument. Et certains journalistes qui n'ont pas hésité à montrer leurs contradictions, et voire même le côté parfois un peu ridicule. Il y a aussi un truc qui est vachement important, c'est que ces mecs, quand je dis ces mecs, je ne pense pas uniquement à John, mais John, bien entendu, c'était des formidables raconteurs d'histoires. Et Lennon, comme les autres, savait particulièrement bien maîtriser ça. Ça faisait aussi une vraie scission avec les pop stars qui existaient avant eux, qui étaient un peu comme des marionnettes dont les managers tiraient les fils. Quand on regarde les conférences de presse de Elvis Presley, on a l'impression que c'est un écolier qui répond à ses professeurs, oui madame, merci madame, etc., ou monsieur. Alors que les Beatles, ils se moquaient d'eux-mêmes, ils tournaient en dérision les journalistes qui leur posaient des questions, et puis ils n'hésitaient pas à exprimer leur point de vue. Au départ, on s'est dit, il faut surtout pas qu'ils parlent de la guerre du Vietnam, et ils en parlaient. Ça tombe aussi un moment où d'autres se mettent à l'exprimer en chanson. Je pense bien sûr au Protest Song.
Ok.
Printemps 71, Tittenhurst Park, propriété de Lennon à l'ouest de Londres. Il enregistre la maquette d'Imagine.
Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Okay.
Hymne anticapitaliste, anti-religieux, interdit de diffusion sur les radios américaines au moment du 11 septembre 2001, Imagine est devenue la chanson la plus écoutée après les attentats du 13 novembre 2015. Et Lennon disait à son sujet : je n'ai pas changé de message, j'ai seulement mis du sucre autour pour le faire passer. La même année, 71, Lennon s'installe à New York et le président de la République s'appelle Richard Nixon. L'écriture de ce morceau, Gimme Some Truth, a commencé en 69. Quand la chanson est publiée en 71, elle devient une charge contre Nixon et l'engagement américain au Vietnam, avec des paroles qui disent « J'en ai assez de lire les mots de politiciens névrosés, psychotiques et bornés. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Donnez-moi juste la vérité. » En 72, Lennon s'engage contre la réélection de Nixon et le pouvoir américain s'inquiète.
À partir du moment où ils ont cru qu'il allait faire un concert lors de la convention républicaine en 1972, avec tous les grands de cette époque qui étaient résolument contre Nixon, ils ont commencé à baliser. Ils se sont dit, celui-là, il faut qu'on se le fasse, quoi. Et ça prenait un tournant inquiétant, quoi. Même si quand ils se rendaient dans les studios de télévision ou de radio pour donner les interviews, ils voyaient qu'il y avait des gens qui étaient derrière, en voiture ou à pied. Ils n'étaient jamais très très loin.
Mais le pouvoir politique était totalement paranoïaque par rapport à lui.
Absolument. Cela dit, il ne fallait pas non plus ignorer l'impact de Lennon, et encore une fois ça vient de cette extraordinaire puissance qu'avaient les Beatles, sur la jeunesse.
Lennon a dit dans une interview que, et puis Paul aussi, Paul McCartney l'a repris dans, son, dans l'anthologie en 95, que les Beatles auraient pu être des Hitler. Et d'ailleurs, souvent, John faisait le salut militaire nazi pour se moquer, bien sûr, en disant, voilà, je peux faire ça, personne ne me dira rien. Il était aussi un peu un fouteur de merde. On se souvient qu'il avait voulu que l'effigie de Hitler figure sur la pochette de Sgt. Pepper, qui a été heureusement retirée. Cet impact pouvait être négatif. Heureusement, ils ont surtout dit aux gens « All you need is love, aimez-vous l'un l'autre ». Puis Lennon, après, bah, faites la paix.
Il est 8h15. Jean-Claude Turgeman, présentateur actualité.
Ainsi, Richard Nixon, si souvent battu et humilié dans sa carrière politique, a remporté une des plus belles victoires électorales de l'histoire des États-Unis, Jean-Claude Mangeau.
Oui, le président Nixon va donc rester à la Maison-Blanche. Ce sera son second mandat et le dernier d'ailleurs, puisqu'au terme de la Constitution américaine, il n'aura pas le droit de se présenter à nouveau dans 4 ans. Un mandat que ses concitoyens lui ont donc concédé à une majorité éclatante.
Lennon est sur écoute, toujours surveillé par le FBI, et l'administration Nixon a le projet de l'expulser.
Et c'est justement à cause de ça, quand il a commencé à avoir peur de voir qu'il était filé, qu'il a totalement arrêté d'enregistrer des morceaux qui soient politiques. Et l'album suivant, après Sometimes in New York City, c'est Mind Games. C'est là qu'il y a eu le tournant. C'est là que tout d'un coup, il parle à nouveau plus de lui, ce qu'il a souvent fait dans ses chansons.
John Lennon est arrivé aux États-Unis en 1971 avec un visa touristique. Il lui faudra attendre la démission de Nixon suite au scandale du Watergate pour enfin obtenir sa carte de résident permanent. On sera alors en 76. Pendant 5 ans, c'est donc comme si Lennon avait été un millionnaire sans papier.
Ça marche là ?
Et revoici David Foenkinos, auteur du roman Lennon, inspiré des déclarations et de la vie de John Lennon.
Ah oui, je vous entends bien, ok.
Je vous lis un extrait de Lennon. Quelqu'un a dit à la télé, son acharnement à vouloir être américain aurait dû lui valoir automatiquement la nationalité américaine. Et Foenkinos précise en note de bas de page, quelqu'un dira plus tard, s'il n'avait pas obtenu son statut de résident américain, il n'aurait pas été assassiné à New York. Et Lennon poursuit, pendant 20 ans, j'avais employé toute mon énergie à bosser comme un chien. Tout ça était fini. Ces dernières années, j'ai eu une vie rythmée par des choses simples. Entre 1975 et 1980, John Lennon ne publiera aucun disque.
Quand il a mis un terme à sa carrière en 1975 pour s'occuper de son fils, il l'a déclaré que voilà, c'était important pour lui d'être un homme au foyer et il a même vanté l'idée de pouvoir être un homme au foyer. Donc c'était important qu'une telle voix puisse exprimer ça. L'idée qu'un homme ait non seulement le devoir, mais aussi voilà, l'obligation de s'occuper d'un enfant. C'était pas chose commune en 1975. D'ailleurs, ça faisait partie de leur pacte, puisque quand il supplie Yoko Ono de le reprendre, après un an et demi de dérive, elle accepte, elle le reprend, et elle lui dit que s'il faut un enfant, c'est lui qui s'en occupera. Donc ça faisait partie déjà du pacte entre eux.
Pendant que Lennon est homme au foyer, le punk, le disco, le new wave apparaissent. Autant dire qui pourrait être has-been musicalement. Sur l'album Double Fantasy, publié 3 semaines avant sa mort, il y a cette chanson « Watching the Wheels ». Et Lennon chante « Les gens disent que je suis paresseux à rêver ma vie. Ils me donnent des conseils supposés m'éclairer ne passe pas à côté du succès, mec. Mais je reste assis là, à regarder les roues tourner en rond. J'aime vraiment les regarder rouler. People say I'm crazy. Doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. Kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watch your shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels. Jacques Volcouve, historien des Beatles que vous avez entendu tout au long de ce récit, est le co-auteur avec Pierre Merle de Révolution, les Beatles, paru chez Fayard. Lennon, roman de David Fuenkinos, est disponible en poche chez J'ai lu. Il y a un coffret, Gimme Some Truth, toute récente compilation de Lennon avec un très beau livret, ça vient d'être édité. Et mardi prochain, 8 décembre, France Inter consacre une journée spéciale à John Lennon.
France Inter, Bob & Co, Rebecca Manzoni.
Et la suite de Pop & Co, c'est où ?
Je suis à Marseille. Je suis chez moi. Là, je suis dans ma chambre. Il y a un piano, il y a un ukulélé. Je rentre de voyage, c'est un peu le souk.
À Marseille, donc, dans la chambre de David Walters. Dans une poignée de minutes, on entre dans le moteur d'une de ses chansons. Mais là, maintenant, la règle, c'est que le prochain disque, c'est David Walters qu'il choisit.
Ah, quel est le titre que j'ai choisi ? Alors j'ai choisi Petit Prince, Endors-toi. Et je pense à lui parce qu'il a sorti cet album un peu avant le confinement et que malheureusement, je pense qu'il mérite d'avoir voilà, toute la lumière parce que pour moi, son album, c'est vraiment un album magnifique. Donc Petit Prince, c'est facile à retenir et c'est chez Pain Surprise, le label.
Thank you. Alors, il y avait le code, ensuite escalier C à gauche, et puis deuxième porte à gauche dans le couloir, juste avant l'escalier.
Au bout de ce dédale, dans une cour de Bagnolet à l'est de Paris, il y a le musicien David Walters. Son nouvel album s'intitule Soleil Créole. Et ce matin, dans Pop & Co, on entre dans les coulisses de ce morceau. Ça s'intitule « Criez-moi » et ça tourne sur France Inter. Ce disque, Soleil Créole.
C'est une sorte de fiction.
Comme un film, en fait.
Exactement. Où j'ai mélangé l'histoire de mon grand-père, Nelson O'Neill Walters, et la mienne. Parce que mon grand-père était natif de Saint-Kitts-et-Nevis, une île anglophone caribéenne. Et il y a une période de sa vie où il a décidé de partir vivre à New York. Il était danseur de claquettes, musicien, cuisinier, comme beaucoup d'artistes. Enfin, moi aussi, j'ai fait ça. On a eu plusieurs jobs. Et donc, lui, il décide de partir vivre sa vie de mélomane à New York. Et donc, je sais pas pourquoi, ça m'est revenu et j'ai été chercher des infos. J'ai appelé maman et je lui ai demandé des infos sur Nelson, sur mon grand-père. Et voilà. Donc, j'ai décidé d'écrire cette histoire qui se passe dans les années 70-80.
Et pourquoi les années 70-80, pourquoi pas aujourd'hui?
Parce que pour moi, les années 70-80, même avant, c'est les années psychédéliques, c'est aussi les années où les peuples se rencontrent, où il y a un métissage à New York musical.
Ouais, c'est le moment où New York est à la fois une ville qui craint,
ouais.
Et en même temps, c'est un bouillon de culture.
Exactement.
Il y a le disco,
ouais.
L'arrivée du rap,
ouais.
Le punk.
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Et c'est des années des premières fois. Et je trouve que dans les premières fois, on réfléchit pas. Il y a une innocence. Il y a quelque chose de frais qui se passe. Et ça me plaît.
Cet album, Soleil Créole, il a à voir avec des premières fois? Qu'est-ce qu'il y a comme première fois dans ce disque pour vous, David Walters?
Ce disque, c'est une première fois parce que c'est la rencontre avec Bruno Patchwork, le réalisateur et le producteur avec qui j'ai travaillé sur ce disque. Et c'est un garçon qui m'a énormément nourri, cultivé, parce qu'on travaillait toute la journée. Et puis, le soir, il me donnait des références. Il me disait, tiens, sur le morceau Criez-moi, t'as une voix de tête. Écoute tel chanteur.
Et vous avez dit quel chanteur, vous souvenez ou pas, pour Criez-moi?
On a été faire un tour vers Studio One, tous les chanteurs de reggae, de voix de tête, mais aussi Marvin Gaye. Criez-moi, c'est vraiment la référence Marvin Gaye. C'est I Want You, c'est cet album, c'est cette pochette, je sais pas si vous la voyez, c'est un dessin. Et il y a des gens qui sont dans un club et c'est une scène de danse qui est assez magnifique. La pochette, elle est marron et on voit des corps comme ça. Il y a une mezzanine et on voit que ça danse dans tous les sens et on a envie de la vivre, cette scène. On se dit...
On a envie d'entrer dans l'image.
On a envie d'entrer dans l'image. Donc Criez-moi, c'est vraiment un énorme clin d'œil à Marvin Gaye, tant dans l'interprétation que dans le texte. Parce que Marvin Gaye, c'était un ultra lover. Et c'est vrai que quand on s'est plongé dans les textes de Marvin Gaye, d'un seul coup, ça vous décomplexe complètement.
I want you, I want you, I want you.
je dis le dixième de ce qu'il dit, déjà je me mets un peu à poil.
Rappelez-moi le titre de l'album qui vous a inspiré pour crier moins.
Ah, c'est I Want You.
Voilà.
Ouais.
C'était décomplexant.
Oui, de faire des déclarations d'amour. Parfois, on a du mal à le faire, même dans l'intimité. Je dirais que c'est peut-être même plus facile de le faire sur une chanson, parce que c'est plus large. L'histoire, c'est plus large.
Ça veut dire quoi, crier moins? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson en créole?
Alors, crier moins, ça veut dire appelle-moi. Et en gros, cette chanson, elle dit si tu vas pas bien, appelle-moi, je serai toujours là, je vais te relever, je vais te porter, je vais t'aimer, je t'aime déjà. C'est vraiment, c'est le mec qui, en 10 secondes, s'emballe et fait une déclaration monumentale. Et ce qui est étonnant, c'est que la chanson ne devait pas du tout être sur l'album, parce que moi, je la trouvais trop... Trop mauve, trop mièvre, trop douce.
Trop mauve.
Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit mauve, mais c'est sorti. Moi, je viens plutôt du hip-hop, etc. On est un peu comme ça. On dit pas. Et là, je me suis complètement lâché. Et donc, cette chanson, elle raconte ça. Je te parle.
Je t'aime, quoi.
Je t'aime. Voilà.
Alors, on écoute des éléments qui composent ce titre,
ouais,
qui a failli ne pas exister.
Vous voulez tout le morceau?
Non, ce que j'aimerais qu'on écoute d'abord,
c'est
la basse.
Ah, mais la basse, elle est là. La basse, c'est le morceau.
On va arrêter. Pourquoi vous dites « la basse, c'est le morceau » ?
Ben, cette basse, c'est toujours la même, du début à la fin du morceau. C'est le porte-avions du morceau. Si elle n'est pas là, le morceau ne tourne pas pareil. C'est le liant, la basse. Il n'y a pas beaucoup de notes, hein. Mais par contre, elle n'est pas facile à jouer.
Ah ouais ?
Ouais, parce que c'est toujours la même chose. Jouer la même chose du début à la fin, c'est compliqué.
Ouais, il faut maintenir le cap, hein.
Surtout la basse. Et la basse, ça marche avec la batterie, et les deux, ils doivent être, ça doit aller tout droit et pas bouger pour créer une base et pour que tout le reste, finalement, tout ça, c'est un exercice quasiment pour mettre la voix en avant.
La voix qu'on met en avant dans Pop & Co ce matin, c'est celle de David Walters, avec qui on soulève le capot de la chanson Criez moins. C'est l'heure du point route, on a écouté la basse, maintenant on écoute le rythme, le truc qui fait...
Alors le rythme, déjà... Il y a celui-là que j'aimerais vous faire écouter, parce que c'est une clave un petit peu caribéenne. Tac, 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 tac.
Ouais.
Tac. Donc vous avez ça, ensuite on a ça, celui-là, le pied.
Disco, ça.
Disco. C'est dans la...
Alors là, on bascule dans un truc...
Plus électronique.
Ce qu'on appellerait la house, un peu.
Complètement la house. Ensuite, on a les claps qui amènent de la vie.
Là, on entre sur la piste de danse.
Alors, on avance sur la piste de danse et ensuite, il y a la percu. Les percus. Et il y en a encore. Hein. Voilà. Il y a des tambourins aussi. Et si je remets la basse là-dessus, il y a des petites cloches là. Oui, attends. Il y a du monde en rythmique. Hein. Et ensuite, voilà, et là si on met la basse,
le morceau il est là.
Le morceau il est là, il n'est pas que là, parce qu'il y a aussi il y a l'harmonie.
C'est quoi l'harmonie ?
L'harmonie c'est les éléments mélodiques.
Ouais.
Et sur quoi on va s'appuyer ? Alors là il y a un clavier, c'est celui-ci. Ça, pour le coup, c'est un clavier vraiment deep house. Ça pourrait être... ça pourrait venir de Détroit.
Et d'ailleurs, si on met le...
Avec ?
Ouais.
Alors, ça fait ça. Là, on y est.
Là, c'est néon, c'est tout ça, quoi.
Là, c'est la nuit. On est dans le club. On est au club 54. Nelson, il descend là, il a eu son coup de foudre. Il va pas tarder à faire sa déclaration. Voilà.
Il y a un moment dans le
Même régulièrement, tout au long du morceau, vous faites « Ouh !» Enfin, je fais très mal.
Ouh.
Ouais, c'est ça.
Comme ça, ouais. Alors. Plus ça vient comme un élément rythmique. Et ce petit « Ouh !» ça...
« Ouh !»
ça... C'est un instrument. De toute façon, la voix, c'est le premier instrument.
Est-ce qu'on peut écouter la piste vocale, justement?
Ouais. Le refrain, vous voulez?
Ouais.
Il va pas tarder.
Ouais.
La lune lève et puis éclaire le ciel.
La lune se lève et éclaire le ciel.
Qui
nous emmène à quelque chose de plus beau.
Est-ce qu'on peut écouter successivement l'entrée des différents éléments? Partons de la voix,
ouais.
Puis après la basse. Et, donc à partir du refrain, donc là pour le coup.
Refrain.
Ouais.
La vie a mal tourné. On y crie moi, manque couille vini.
Chance le qui.
Manque fait un bagaille pao. La vie a que roulé, on y crie moi. Crie moi, crie moi, crie moi. Crie moi, crie moi, crie. Crie moi, crie moi, crie moi.
Soleil Créole, c'est le nouvel album de David Walters, paru sur le label indépendant Heavenly Sweetness. Et David Walters sera en concert à La Cigale à Paris le 11 mars, à Marseille le 21 et à Rumilly le 27. Koyen Guyen a réalisé cette émission avec Johanna Gabric ce matin. Ilinka Negulesco trouve les sons, la doc et les invités de Pop & Co. Et Jean-Baptiste Audibert apporte sa contribution précieuse à la programmation musicale. La semaine prochaine, je vous parle de Noël, de ses chansons, et on entrera dans un des morceaux de Chile González. À samedi!